France Culture.
Comment allez-vous?
On est tellement, on vous doit tellement.
Salut Yuri, ça va?
Très bien. Et moi aussi, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que quand on est issu de peuples, enfin de gens qui ont vécu des traumatismes importants, des tragédies, je pense que nous portons la mémoire de cette tragédie-là en nous, et ça donne des comportements, ça donne des traits, en fait. Et je pense que c'est ce qui nous relie. Soit on est militant, soit on est acteur, soit on est artiste, soit on est écrivain, soit on est guide conférencier, on transmet, voilà. Je crois qu'on transforme cette chose en quelque chose de positif. Hein. Parce qu'on triche pas, parce que c'est en nous.
Et vraiment, encore une fois, là, il y a pile un an, on parle de
Mais oui.
Nous, les descendants de l'esclavage colonial, nous portons un héritage pesant. Mais il ne tient qu'à nous de l'alléger en le transmettant, comme le font Anaïs, Ariane et Emmanuel. Je suis en lionnage avec ces trois femmes. Lionnage en créole, ça veut dire lien. Car nous sommes liés par les destins de nos ancêtres, toutes dans le même bateau. Nous naviguons sur des flots mémoriels parfois déstabilisants. Mais Anaïs, Ariane et Emmanuel sont restés ancrés avec une volonté, tisser des liens pour un avenir plus apaisé. Et ça commence ici, en Normandie. Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui. Une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacuboviez. Épisode 4. Le Havre, un futur à apaiser.
Alors c'est parti.
C'est parti.
Nous sommes quai de l'Arsenal et nous sommes au bassin du roi. Et donc le roi François Ier, en 1517, il passe commande pour avoir une ville. Et cette ville va porter son nom. Alors, il n'y a plus d'immeubles de cette époque-là, parce que la guerre est passée par là. Les bombardements de 44 ont rasé tout le centre-ville. Et ne reste de cette époque-là quelques maisons debout, quelques maisons de négoces qui ont effectivement été les témoins de cette époque-là.
Je suis Anaïs Girnidos, je suis née en Martinique et j'ai découvert que j'étais l'arrière-petite-fille d'un esclave né à Marie-Galante et qui a obtenu sa liberté et son nom de famille en 1854. Ce sont mes enfants qui me questionnaient autour de cela. Dans la famille aussi, on avait des questions, mais ça n'allait pas plus loin. On était fiers de s'appeler Girnidos, parce que tout le monde disait à l'école que ça sonnait grec ou ça sonnait portugais. Donc on était fiers d'être peut-être portugais ou grec. On n'était pas des marrons, on n'était pas des esclaves, enfin voilà. Et puis la vérité est beaucoup plus moche que ça.
On ne parle pas beaucoup du Havre dans l'histoire parce que cette ville, elle a été oubliée, je crois, du fait justement des traumatismes, du fait de l'effacement des bombardements de 44. Et c'est une histoire qui est devenue discrète, silencieuse, jusqu'en 2023 où monsieur Édouard Philippe, avec la région, ils ont pris la décision de faire cette exposition spectaculaire sur les trois sites. Le Havre n'est pas tout seul. Le Havre va se lancer dans l'aventure atlantique avec Rouen et Honfleur. Alors Rouen, ça va être les finances, et Honfleur va être le port un peu de recours, parce qu'il va y avoir tellement de bateaux ici que les bateaux ne pourront pas tous tenir dans ce petit bassin. Donc ce sont des alliances matrimoniales puissantes qui vont asseoir le pouvoir de ces trois villes dans le commerce atlantique au XVIIIe siècle. 200 000 esclaves traités, 150 000 Le Havre et 50 000 avec Honfleur.
J'ai compris qui j'étais quand je suis arrivée en France.
Justement, c'était quand cette arrivée ?
Je suis arrivée en France en 1974, après le bac. J'avais 18 ans. J'arrive en France et je me découvre différente et je me vois dans le regard de l'autre, en fait. Et l'autre me renvoie à ma différence. Et tout ce qui m'avait construit a été remis en question, forcément. Et souvent, quand je communique avec des gens, on me fait remarquer mon accent. On me fait remarquer que je ne parle pas comme eux. Est-ce que le temps d'ici, ça vous convient ? Enfin, voilà, ils me parlaient comme ça. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils me posaient ces questions-là, puisque je suis française. Je vivais toute cette expérience de manière extrêmement émotionnelle. Ça m'a bouleversée. Parce que, en Martinique, on vous dit « la Martinique, c'est la France ». On vous impose des bonnes manières de bien écrire, de bien parler. Le créole est interdit dans les familles. On ne doit pas parler créole parce que c'est la langue des nègres. Et j'arrive ici, ils ne me comprennent pas, alors que je parle français. Oh oh, il y a comme un souci. Et donc ça m'a demandé du temps pour comprendre et ensuite apprendre et... m'intégrer, en fait, et faire le switch, ça m'a refroidi. Je ne veux pas rester au Havre parce que je trouve ça compliqué. Pour nommer une salade, il y a 36 mots. Alors que chez nous, quand ma mère m'envoyait sur le marché chercher de la salade, c'était la salade. Ici, il y a la Batavia, il y a la Lolo Rossa, il y a la... Je dis, waouh, ils sont compliqués. Alors, en plus, je suis orgueilleuse. Tu me fous la honte devant tout le monde, tu me dis de me mettre sur le côté. Elle m'a fait ça, la Marie chère. Vous vous mettez sur le côté et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez, vous reviendrez me voir. Je savais pas que ça s'appelait une batavia. J'appelais ça une salade. Eh bien, aujourd'hui, je suis imbattable hein, sur les noms des salades.
Tu arrives où exactement en France quand tu viens de Martinique?
J'arrive au Havre, à la veille de la rentrée scolaire, parce que en fait, je passe le concours pour entrer à l'école d'éducateurs spécialisés. Mais on ne me dit pas, quand je suis à Martinique et à Fort-de-France, que le concours se passe en Martinique, mais que la formation d'éducateur se passe en France. Et quand j'arrive au Havre, donc c'est la veille de la rentrée, je me rappellerai toujours, c'était le 18 septembre, j'arrive à l'école, la directrice me reçoit, et elle me dit que, pour vérifier, elle n'a pas dit l'honorabilité, mais la recevabilité de ma candidature. Ben, on va repasser un petit concours. Et donc, me voilà à repasser devant un jury pour un concours que j'ai obtenu, haut la main. Alors, ils commencent à me poser des questions, et rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils perdent leur temps, en fait. Ils me disent, bon, ben, ça va aller. Mais je suis quitte pour... un sentiment, je ne savais pas mettre de mots dessus hein, à l'époque. C'est après, quand j'ai travaillé avec des professionnels de tout ça, de l'émotion, que j'ai compris que j'avais été humiliée, qu'on m'avait offensée, que j'avais été confrontée à du racisme. Un a priori de moins. Alors, effectivement, ça a été un moteur. Quand je fais quelque chose, ah, je te percute ta tête. Hein. Ah oui, quand je m'engage dans quelque chose... Je vise... il faut que ce soit indiscutable, que je n'ai pas besoin de me justifier sur mes compétences. Alors, c'est devenu, en fait, une névrose. Ces gens ont nourri chez moi une espèce de manière d'être qui fait que je suis sur la défensive en permanence. Et je suis tout le temps en train d'argumenter quand je dis quelque chose. Alors, ça fait de moi quelqu'un qui parle beaucoup, on me le dit. Mais je ne savais pas à cette époque-là que... Plus tard, j'allais devenir conférencière, guide, et que j'allais parler de l'esclavage dans une ville dont je ne savais absolument pas qu'elle avait été un acteur important de cette histoire-là, tu vois.
Oui, quand tu arrives au Havre, t'as pas conscience d'être dans un ancien port négrier.
Mais personne, mais pas Havre et sur mille, ne sait que sa ville est une ville négrière, parce que ça ne se parle pas ici. Ici, les gens... Ils vous disent « Ah non, ça n'a pas existé, madame, vous vous trompez, c'est pas ici, c'est à Bordeaux, c'est à Nantes, c'est à La Rochelle, mais pas ici. »
On va se mettre en face, sous la plaque, pour continuer la visite. Alors, nous sommes dans le quartier Notre-Dame, la rue des Drapiers, qui est une rue emblématique aussi hein, de cette époque-là. En Normandie, il y a une tradition de la filature et du travail du coton, du travail du tissu. Pour avoir des captifs, il faut du drap, donc des tissus, mais pas seulement, il faut de la belle porcelaine, la porcelaine qui vient de Rouen. Alors, il faut des fusils, il faut des tissus, alors ça, ce sont des indiennes. Des indiennes, ça, au départ, ces tissus-là, ils sont fabriqués en Inde. Il faut aller les chercher en Inde, mais ça coûte cher. Donc, ils vont trouver un subterfuge, ils vont faire un peu de contrefaçon. Et donc, dans la campagne normande, vous avez ce qu'on va appeler des chaumières normandes. Et dans ces chaumières, il va y avoir des personnes qui vont faire de la siamoise. Donc, ils vont recopier le tissu et ils vont le vendre aux courtiers africains, négriers, comme étant des indiennes. Et il y avait aussi de la dentelle. Au Havre, il y avait 2000 dentelières qui travaillaient pour la traite. Au Havre, il y a beaucoup de corporations ouvrières, beaucoup de gens qui travaillent pour la même chose. Sont-ils conscients? Ne le sont-ils pas? On ne saura jamais, parce que ça ne se passe pas sur le territoire, ça se passe à 8000 km. Mais tout le monde travaille pour les armements de traite.
À partir de quel moment tu décides de t'emparer de cette mémoire, de devenir une passeuse de mémoire? Comment ça s'opère entre le moment où tu es ignorante, tu arrives dans un endroit qui est chargé d'un passé que tu ne vois pas, que tu ne connais pas? Qu'est-ce qui a fait le déclic?
C'est pas vieux, hein. Ça fait 10 ans. Je suis à la retraite et puis une personne, un médecin gériatre, me passe un document. C'est un mémoire qu'elle a écrit sur la solitude des personnes antillaises au Havre. Et là, pouf, je me dis, ben il y a peut-être quelque chose à faire pour les rassembler. Et je me suis mise, effectivement, à organiser des événements où je les invitais à venir et à se retrouver. Parce qu'elles sont seules. Et en fait, au Havre, il y a une population de ces primo-arrivants antillais qui est très âgée. À mon grand dam, hein, je les vois disparaître les unes après les autres. Et donc, j'ai découvert la question de nos origines, de notre différence comme ça. Et j'ai découvert la question de l'esclavage avec la loi Taubira, hein, et la question de l'esclavage au Havre quand une association de Bordeaux m'a interpellée et m'a demandé si je voulais travailler avec eux autour de cette question.
Et là, tu t'es dit, c'est logique, c'est...
Même pas, je voulais pas. Je voulais pas faire ça parce que... raconter ça dans les rues, mais mon Dieu, mais ça doit être compliqué. Je veux bien aider, mais moi, prendre la responsabilité de faire ce travail, je ne sais pas, je ne souhaite pas le faire. Et quand je me suis mise à tirer sur le fil, je me suis dit, mais c'est horrible, deuxième port négrier, mais ça tu le vois écrit nulle part. Alors évidemment, il y a des personnes qui savaient au Havre, les milieux confidentiels d'historiens et d'universitaires. Mais tout le monde ne va pas à l'université. On passe à côté des plaques de rue, il y a des noms marqués. On ne sait pas que ce sont des personnes qui ont eu une histoire particulière et qui est en lien avec notre histoire, notre naissance en fait, nos lieux de naissance. Et donc je me mets au travail, je suis allée dans les archives, j'ai cherché, j'ai marché dans le Havre, et pourtant la ville, je la connais. Eh bien, j'ai levé le nez, et j'ai regardé les plaques. Et puis j'ai compris que derrière les plaques, il y avait des histoires. Et donc j'ai cherché l'histoire des gens qui étaient inscrits sur les plaques. Eh ben, ça fait qu'on regarde la ville complètement autrement parce que toutes les personnes ont participé, j'ai envie de dire. À cette époque-là, quand on recontextualise, toute la ville travaillait pour la traite et l'esclavage.
Alors ici, on est à la rue des Étoupières, qui est une étape importante de la visite, parce que sans les Étoupières et sans les calfats, on n'a pas une coque de bateau étanche. Et la coque de bateau, elle doit être impeccable, parce que le navire, il va transporter une cargaison qui vaut de l'or. Donc, oui.
Qu'est-ce que c'est les Étoupières?
Je vais expliquer.
Ah ouais,
ce sont des femmes qui travaillent à dépicher
de l'étoupe qui va devenir de l'étoupe de marine. C'est du chanvre. Ce sont des vieux cordages qu'elles vont dépicher, qu'elles vont laver et qu'elles vont étendre sur des échelles. Et là, ça se passe ici. Il y avait des ateliers, elles étaient ici. Et elles ont l'autorisation du roi Louis XIV de faire cela. Et l'étoupe de marine, elle sert à quoi? À faire du calfatage. Le calfatage, c'est quoi? C'est insérer entre les planches de la coque du bateau. La coque, elle va être grattée, chauffée. On va enduire l'étoupe de marine de goudron et on va effectivement calfater pour étanchéifier la coque du bateau. Et on va remettre par-dessus une couche de goudron pour véritablement rendre cette coque étanche. Ça, c'est la manière de pratiquer avant que les coques de bateau ne soient couvertes de cuivre. Et être calfa, c'était un prestige. C'était la corporation ouvrière la mieux payée de cette époque-là. D'ailleurs, j'ai rencontré un descendant de calfa qui est venu sur la visite et qui me racontait effectivement l'histoire de sa famille calfa, enfin de son arrière-grand-père qui était calfa. C'était très, très émouvant. Le fait que je sois martiniquaise, ça a été un atout incroyable. Parce que Pierre Bénédénambu, que je connais, Joséphine de Beauharnais, je connais, puisqu'ils ont leur statut en plein milieu de la savane à Fort-de-France. Quand on est petit, on est en Martinique, tous les grands événements se passent là, à la savane. Et il y a Pierre de Bénédénambu qui scrute l'horizon, et il y a Madame Joséphine qui regarde ses plantations de l'autre côté de la baie. Donc, ce sont des noms que je connais. Et curieusement, je découvre que Pierre Bénédénambu, il est né ici. Ah ben, je suis tombée de ma chaise. Parce qu'en fait, je découvre que Pierre Bénédénambu, il est né à Louville-Bellefosse. À vol d'oiseau, ça fait quoi? Ça fait 30 km d'ici, hein? Et que tout le village est construit autour de la gloire de Pierre Bénédénambu, qui est le père des Antilles françaises. J'ai dit, d'accord. Et je découvre qu'il part d'ici, du bassin du roi, avec la lettre patente de Louis XIII, et qui va planter son drapeau à Saint-Pierre, prêcheur. La ville où sont enterrés mes parents. Et toutes les vacances scolaires, on allait à Saint-Pierre. On était au Carbet, là où j'ai passé mon enfance, en fait. Je dis, d'accord. Et j'ai tiré sur le fil. Et je les ai tous retrouvés. Hein. Je les ai tous retrouvés parce qu'ils sont partis en bande. Oui, 150 Normands. Et je découvre que cette histoire, elle me concerne au plus profond de mes tripes, au plus profond de moi-même. Et puis je cherche, et je cherche, et je découvre qu'en fait, nous avons des racines normandes en terre martiniquaise. Le fait d'avoir compris le lien entre la Normandie et la Martinique de manière historique, ça m'a légitimée dans ma prise de parole. J'ai pas choisi d'aller au Havre, en fait. Et je me retrouve dans un endroit qui ne parle que de nous, mais de manière tragique. De manière tragique, alors qu'il ne parle que de nous. Qui ne parle pas, justement. Qui ne parle pas de nous. Parce que parler de nous, ça voudrait dire reconnaître la responsabilité de cette ville et de ces négociants, de ces gens, dans ce trafic-là, dans cette mise à mort organisée par le pouvoir royal, la marchandisation en fait des personnes qui sont arrachées d'Afrique et dont je suis la descendante. C'est terrible de découvrir une chose comme ça, mais c'est bien. J'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard. Sûrement, il n'y a pas de hasard, mais c'est une belle chose qui m'est arrivée, que de découvrir cette proximité de lien avec cette région, la Normandie, et de pouvoir effectivement en transmettre de manière à hauteur d'homme, à tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'université. Et les livres des historiens, moi je les ai abordés. Et en fait, je me vis comme une espèce de traductrice. Parce que c'est chiant un livre d'historien, c'est chiant un colloque d'historien quand il y a plein d'historiens entre eux, mais c'est pas possible, tu te prends.
Parce qu'ils parlent entre eux. 1794, voyez-vous. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si t'es pas au courant, personne t'a dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé en 1794. Donc, j'épargne ça aux gens, en fait. Lorsque je les aborde et que je restitue un peu de ce que j'ai compris, j'essaie d'être accessible et de mettre l'université dans la rue, en fait.
On va rester à l'ombre. On est rentré dans le cœur battant de la ville de cette époque-là. Ici, véritablement, on est dans le quartier emblématique des négociants qui pratiquaient la traite au XVIIIe siècle. Et le Havre, c'est ça. Le Havre est ici. Donc on va faire le tour, on va aller voir les façades des maisons qui sont restées debout. On pourrait voir surgir, comment il s'appelle, Johnny Depp. On pourrait le voir surgir avec le Hollandais volant. C'est cette époque-là. Donc on est dans la rue Dauphine. Et la rue Dauphine, c'était la rue des commerçants, des négociants. Une rue importante à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Et là, on est devant une maison qui restait debout, hein, à l'architecture remarquable, avec une entrée qui est une porte cochère. Donc la porte cochère, on y entre en vinaigrette. Oui, parce qu'on ne marche pas à pied. Attends, excusez-moi. Voilà, voilà la vinaigrette.
Me décrire ce que c'est ?
Alors, c'est la vinaigrette, c'est une chaise à bras, en fait, une chaise à porteur. Et ensuite, elle va être attelée. Alors, elle va être attelée, il y aura des chevaux. Mais au début, c'est une chaise à porteur, une chaise à bras. Donc, ces personnes, elles se font transporter en vinaigrette. Et elles arrivent dans leur maison de négoce.
J'essaye de faire le lien avec la vinaigrette, la sauce. Je comprends pas pourquoi.
À l'intérieur, t'es secouée.
Comme la vinaigrette. Quoi.
Voilà.
Et donc, je ne sais pas si vous allez voir le bout de maison qui dépasse là, juste l'angle. Quand on part de la première fenêtre, 1, 2, 3, 4, en dessous, c'est marqué hôtel. Voilà. Donc c'est un peu le type d'hébergement que rencontraient les marins. Dans ce type d'endroit, les marins, avant même qu'ils soient payés, ils avaient dépensé leur paye avec des filles de joie qui les faisaient boire et qui les dépouillaient, parce que c'était en relation avec les recruteurs. Hein, parce que lorsque les membres d'équipage, les matelots, ils avaient fait une première campagne de traite, c'était extrêmement compliqué pour eux de repartir parce qu'ils avaient eu très peur, ils avaient manqué de mourir, ils avaient été maltraités par les capitaines, donc ils ne voulaient pas repartir en campagne de faire de la traite. Donc les recruteurs, ils se faisaient aider par des personnes dans les hôtels. Ils faisaient boire les marins et les marins se réveillaient en haute mer quand ils avaient des saoulés et ils disaient non, je veux pas. Et quand on leur montrait leur signature, et en fait la signature c'était une croix parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc c'est pour cela qu'ont été mis en place les hôtels des gens de mer. Et donc les femmes de négociants, très vite, hein, elles ont voulu avoir des demeures, on va y aller tout à l'heure, hein, en Hauteville, elles vont avoir des demeures dignes de ce nom, parce que cohabiter ici avec des équipages, des, voilà, toutes sortes de gens. Et puis l'odeur du poisson, parce qu'il n'y avait pas de digue, donc l'eau rentrait, c'était inondé. Donc voilà, s'il valait mieux avoir quelque chose de beaucoup plus élégant, elles vont l'obtenir. On va continuer. Alors nous sommes à la table d'orientation, nous sommes en haut de la côte. Alors on appelle ici la costière en langage du XVIIIe siècle, parce qu'effectivement toutes les personnes qui avaient réussi dans le négoce atlantique se sont achetées des domaines, des maisons, des hôtels particuliers ici. Alors pourquoi nous sommes en hauteur ? Nous sommes en hauteur parce que ces personnes, elles ont besoin de dominer la rade du Havre.
Donc le négociant de sa terrasse, avec sa longue vue, va voir entrer son bateau dans la rade. Il va descendre pour pouvoir faire les formalités d'amirauté, pour pouvoir avoir le droit de rentrer avec ses marchandises dans le port. Donc cette vue, elle est imprenable sur la ville. C'est une position aussi de prestige et de pouvoir, hein, d'avoir les moyens d'habiter la côtière. Donc on appelait ces gens les messieurs de la côte. Donc c'était la route aussi, hein, par laquelle on arrivait de Rouen à l'époque. C'était cette route-là.
La première fois que je viens au Havre passer une semaine seule.
Ariane Chapelet,
en résidence d'écriture,
alias Harry Hameau,
ça a été vraiment
performeuse, scénographe.
Assez intense comme expérience, de me dire waouh, je suis à l'endroit où ces hommes et ces femmes dont j'essaye de à la fois me détacher et de comprendre la vie ont été ici. Et il y a des choses qui m'ont vraiment saisie aussi de compréhension, notamment liées au lieu. Et je trouve que quand on le sent dans le corps, dans l'espace, il y a un truc qui se comprend en fait de qui étaient ces personnes.
Pourquoi la ville du Havre est la ville de départ de la Transat Jacques Vabre ? La ville du Havre est la ville de départ de la Transat Jacques Vabre parce que c'est la route historique des voiliers qui partaient d'ici pour pouvoir aller chercher le café dans les fameux bateaux qui s'appellent les Hirondelles de Rio pour pouvoir les ramener au Havre. Et la ville du Havre est une ville traditionnelle du café, hein, et les gens se sont enrichis, et notamment des familles. Les familles, on va voir les maisons tout le long.
Je me souviens pas du jour où j'ai appris que j'avais des ancêtres armateurs. Et c'est aussi la particularité de comment on sait que on a des ancêtres armateurs, que c'est quand même dit avec de la retenue, de la honte. Enfin, je savais que ça voulait dire un truc qu'on n'a pas trop envie de regarder, dont on n'est pas très fier. Et que ça avait un lien avec la traite esclavagiste, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est en 2019, quand je travaille sur le spectacle du sucre sur les mains, qui parle de Nantes dans la traite esclavagiste, que je comprends ce que veut dire le mot armateur au XVIIIe siècle. Et donc c'est en dehors de la famille que je me rends compte de ça.
Du coup, à ce moment-là, au moment de cette révélation, qu'est-ce que tu te dis ? Je vais faire ma généalogie, je vais interroger mes parents, je vais lever le voile.
La première chose que je me dis, c'est j'écris la lettre que j'aurais aimé recevoir de ma grand-mère. Une lettre dans laquelle elle m'expliquerait ce que c'est, en fait, armateur et qui sont mes ancêtres, mes ascendants. Mais à ce moment-là, je ne sais pas encore exactement qui ils sont. Et donc, je commence à faire ma généalogie. Et en fait, je fais ma généalogie très facilement parce que donc la branche concernée sur laquelle je me concentre, c'est les Bégoins de Meaux. Et la généalogie se trouve sur Wikipédia. Donc, je fais ma généalogie assez facilement. Après, j'en parle aussi à ma grand-mère, qui, au début, a pas très envie de m'en parler parce que elle, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc, ma grand-mère, elle est née en 32. Elle m'explique que dans sa jeunesse, il y a eu le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et que c'est ça qui l'anime aussi, dans sa jeunesse, en fait. Et qu'elle se soit un peu éloignée de ces questions de la traite esclavagiste. Et donc, je vais essayer de faire mes recherches par moi-même. Et en lisant qu'il y avait des dizaines et des dizaines de mètres d'étagères de carton, je me suis sentie un peu déjà submergée par les potentielles accumulations d'archives. Et quand j'ai rencontré Anaïs, qui connaît très bien l'histoire du Havre, quand elle a vu mon arbre généalogique, elle m'a dit « Ah, tu les as tous !» Et donc, je me rends compte ce que ça représente au Havre de venir de ces familles, en fait.
Jacques-François Bégouin de Meaux, alors c'est la figure emblématique de la traite au Havre.
Éric Saunier, alors, historien moderniste,
pour deux raisons.
Maître de conférence à l'université Havre-Normandie.
D'abord, c'est avec les Fouaches, et puis deux, trois autres, c'est le grand négrier. Enfin, c'est, en termes même de nombre d'expéditions, je crois me souvenir que c'est entre 25 et 30, donc c'est assez énorme. Et puis c'est une figure politique parce qu'il est élu député à la Constituante. C'est le premier député du Havre à la Constituante, ce qui est assez logique vu l'importance de son statut social. Et là, c'est lui qui va, à partir de l'été 89 et surtout à partir de 1790, il y a cette crainte du devenir de l'esclavage à cause de l'article 1. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc ça devrait avoir quelques implications. Et lui va développer une action, d'abord un peu de propagandiste, parce que c'était à la fois un négociant, mais quelqu'un qui avait une pensée très économique et assez structurée. Il va écrire un texte d'une cinquantaine de pages qui va diffuser pendant la réunion des États généraux, expliquant que il faut surtout maintenir le commerce colonial, et puis il faut surtout pas et libérer les esclaves. Parce que l'abolition, ça serait ce qu'il y a le plus d'immoral, parce que ça serait ruiner le travail de ces pauvres ouvriers dans nos ports qui perdraient votre travail. Vous rendez compte comme les abolitionnistes seraient méchants. Mais c'est un texte qui est de lui. Hein. Donc Bégouin, c'est un personnage très important. C'est, les textes de Bégouin de Meaux, quand on les lit, c'est le summum du cynisme.
Je vais vous lire un extrait du précis sur l'importance des colonies et sur la servitude des Noirs. Écrit par Jacques-François Bégouin de Meaux. Je ne veux et je ne crois pas devoir examiner cet ordre des choses sous un rapport philosophique.
Je ne veux et ne crois pas devoir examiner cet ordre de choses sous un rapport philosophique. Un pareil établissement et ses résultats doivent être envisagés et discutés en politique et en administration. Si cet établissement existe depuis deux siècles, si nous ne condamnons par là personne à l'esclavage, si nous ne faisons que transporter en Amérique des hommes déjà esclaves en Afrique, si leur sort, bien loin d'être aggravé en Amérique, y est très amélioré, si les colonies que ces esclaves cultivent sont une immense propriété pour la nation, si leur anéantissement ou leur perte devait entraîner les plus grands malheurs particuliers et nationaux, et pour les esclaves eux-mêmes.
Pour les esclaves eux-mêmes.
Si surtout il était possible d'adoucir leur sort.
D'adoucir leur sort.
De les rendre au moins aussi heureux et peut-être plus heureux en réalité que l'homme libre de la dernière classe en Europe.
La dernière classe en Europe.
Tandis qu'il est au contraire impossible de leur donner la liberté.
Tandis qu'il est au contraire impossible de leur donner la liberté.
Qu'ils ne sont pas en état d'accepter de recevoir et dont ils ne pourraient jouir.
Ils ne sont pas en état d'accepter.
N'est-il pas alors juste et raisonnable de conserver à la nation des possessions qui lui sont nécessaires, auxquelles la subsistance et le bonheur d'un peuple immense est attaché.
Auxquelles la subsistance et le bonheur d'un peuple immense est attaché. Bon, je vais pas tout lire parce que je suis déjà rendue à la page 15. Quand j'ai lu j'étais effondrée de me dire un de mes ancêtres a écrit ça, mais j'étais aussi effondrée de voir que des logiques, des argumentaires de cette époque-là sont encore utilisés aujourd'hui, en fait. Et je me dis, mais c'est fou parce que, moi, c'est dans ma famille, mais même à l'école, on pourrait apprendre ça, que l'esclavage a été rétabli par Napoléon, que du coup, il y a eu deux abolitions de l'esclavage en France. C'est des choses que je ne savais pas aussi avant de chercher cette histoire-là via cet ancêtre.
On est sur le territoire bégouin, ici.
La ville du Havre présente Ombre et Lumière, traite atlantique et esclavage au Havre. Si elle a fait le choix de maintenir le nom attribué à cette rue, la ville du Havre a souhaité engager un travail de mémoire sur ce pan de son histoire maritime. Elle vous propose une série de podcasts sous forme de parcours thématiques à travers notre cité portuaire.
Qu'est-ce que ça fait d'être devant une plaque comme ça, avec la descendante d'un Bégouin ?
Qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, je pense que c'est important de ne pas porter tout seul l'héritage de cette histoire horrible
que ce soit d'un côté ou d'un autre. Moi, je ne me positionne pas en tant que victime. J'ai la conscience du poids de cet héritage-là. Et le fait de ne pas être tout seul à porter, que ce soit Ariane, moi vers Ariane ou Ariane vers moi, je pense que ça allège et ça répare, ça nous répare.
La question de la réparation, elle est vraiment, elle m'anime, elle est centrale. Et je crois que je suis à l'endroit de la tentative de réparation. Et que c'est important pour moi de dire que je tente de réparer, mais que c'est quand même quelque chose qui est une histoire qui est très longue, qui s'est déployée sur plusieurs siècles. Ce serait illusoire de croire que je peux réparer quelque chose et que c'est nécessaire d'être à l'endroit de tentative et peut-être d'essayer, essayer et peut-être essayer toute ma vie. Et ce sera une succession de tentatives qui pourront peut-être faire un petit millimètre de réparation à un endroit. Mais que je pense qu'il y a besoin de différentes manières de le faire aussi. J'ai 6 ans, je suis en vacances chez ma grand-mère Mamimo et nous allons visiter le Belém. C'est un très beau bateau, 3 mâts du 18e siècle. J'ai un anorak orange et quand je serai grande, je serai marin. Je me fais prendre en photo par un journaliste. Mets tes mains sur le gouvernail, petite. Le lendemain, il y a ma photo dans le journal et ça fait la gloire des vacances.
J'ai 15 ans, je veux porter des tresses africaines. Je saisis l'occasion du carnaval pour oser les afficher. Erika, une amie de ma mère, se propose de m'accompagner chez sa coiffeuse, où j'irai ensuite régulièrement me faire faire des tresses et surtout des vanilles.
J'ai 21 ans, je passe mon BAFA. Je rencontre Boubacar. Il est né au Sénégal. On s'aime bien. C'est le premier mec qui veut bien sortir officiellement avec moi. Je n'ai jamais réussi à lui dire qui étaient mes ancêtres.
J'ai 30 ans. Je découvre dans une valise héritée d'une grand-tante les premiers éléments de la légende familiale. Le marquis Louis de Pombiré de la Clairetière de Beausoleil aurait épousé Eulalie Manette.
J'ai 23 ans. Nous partons en week-end familial au Havre. Ma grand-mère, tous ses enfants et ses petits-enfants. Le Havre, la ville de la mère de ma grand-mère, Anne-Marie Rossignol, née Bégoin de Meaux. Le Havre, la ville où ma grand-mère n'a pas pu rentrer après la guerre, ville en ruine. Il reste encore la maison de l'armateur dans laquelle les tableaux sont des portraits de mes ancêtres et où, de la cave, remontent des odeurs fétides.
J'ai 38 ans. Un cousin qui a fait appel à une association de généalogie antillaise me transmet les premières véritables informations historiques sur la famille. Je fais la connaissance d'Eulalie, dite Sétout, affranchie en 1835. Elle est couturière et ne signe pas le registre d'état civil. Eulalie est mon arrière-grand-mère, ma quadrisaïeule. Je m'appelle Emmanuelle Gall et comme mon nom ne l'indique pas, je suis descendante d'Africains déportés aux Antilles pendant la traite négrière. J'ai découvert cette histoire très progressivement, très tardivement. J'ai découvert l'histoire d'une famille et à travers cette famille, c'est l'histoire de la France que j'ai découverte et qui m'a frappé, marqué au point de devenir mon sujet, le sujet de mon travail artistique, qui peut être tantôt un travail d'autrice, tantôt un travail plastique. En ce moment, je suis plutôt en train de fabriquer des images.
Qu'est-ce que tu connaissais de tes origines quand tu étais enfant ?
Absolument rien. Moi, j'ai pas du tout grandi en me sentant antillaise, parce qu'on n'a rien fait pour me faire me sentir antillaise. En revanche, quand j'ai eu 7, 8, 9 ans, Un jour, ma grand-mère, de manière très solennelle, m'a offert une poupée. Cette poupée était dans une boîte de mercerie. Et cette poupée, c'est une poupée créole en cuir, très ancienne, dont elle m'a dit à l'époque, c'est pour toi, c'est de la part des vieilles tantes. Tu vas pas jouer avec, c'est très fragile, et quand tu seras plus vieille, tu la donneras à un musée. Donc ce n'est pas une poupée noire, ce n'est pas une poupée blanche, elle est mulâtre. Elle est, pour moi, à l'époque, elle est moche, cette poupée, elle est moche, elle est effrayante. Je ne comprends pas ce qu'elle fait dans mon paysage, je ne connais pas ces vieilles tantes qui sont mortes. Et pour revenir sur ma grand-mère, c'est elle qui fait ce geste. Elle, de temps en temps, elle a des, ce que moi j'appelle des lapsus. Elle fredonne « Adieu foulard, adieu madras ». Elle adore Joséphine Baker. Elle a des petits trucs qui, maintenant, quand je les reconstruis, me rappellent combien elle est en partie antillaise.
Mais elle ne te parle jamais des Antilles.
Non, parce qu'elle n'y a pas vécu elle-même, en fait. Donc je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que la dernière personne de la famille qui a vécu aux Antilles, qui est née aux Antilles, c'est son père, mon arrière-grand-père. Je précise que j'ai deux frères qui n'ont aucun intérêt pour cette histoire, qui ne se sentent en aucun cas antillais, qui se demandent bien ce que je fais là. Pourquoi je m'intéresse à ces questions ? Enfin, je pense que c'est dans peut-être pas mal de familles comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'héritier, quoi, l'héritière. La poupée, je crois que c'est clairement le bâton de témoin. C'est à moi qu'on l'a donné, c'est pas à mes frères, parce que j'étais une fille, évidemment. En même temps, on m'a dit, tu la donneras à un musée. On m'a pas dit, tu la donneras à tes enfants. J'ai pas d'enfants, ça tombe bien. Ou bien, je n'ai pas d'enfants, parce que je n'étais pas censée la transmettre. Mais là, ça va trop loin. Pardon.
Comment se fait ensuite le cheminement, ce déclic que tu as pour ta généalogie, pour ce qu'ont fait tes ancêtres? Comment ça se passe à l'adolescence et étant jeune adulte?
En fait, ma relation à cette histoire se fait par à coup. Et comme si chaque fois que je me détournais, quelque chose venait m'y ramener. À la fac, en maîtrise, je choisis par hasard, pensais-je, un certificat de littérature antillaise. Et un des premiers noms qu'on cite, c'est Suzanne Lacascade, qui se révèle être mon arrière-grand-tante. À l'époque, je ne le sais pas, je sais que Lacascade, c'est le nom de ma grand-mère. Donc quand je rentre chez moi, je dis à ma mère, Suzanne Lacascade, ça te parle ? Et ma mère me dit, bah oui, bien sûr, c'est la vieille tante, une des vieilles tantes de la poupée. Ouais, elle a écrit un livre, il est dans la bibliothèque. Oh, laisse tomber, c'est un petit roman à l'eau de rose, ça n'a aucun intérêt. Moi, je sors d'un cours à la Sorbonne, je lui dis, écoute, ok, moi, on vient de me dire qu'elle est précurseur de Césaire, donc, bah, tu sais quoi, je vais le lire et puis on en reparle.
Créole. Néocolonie, exemple. Bœuf créole, cheval créole, liriez-vous dans un dictionnaire. Mulâtre vient de muler, veut dire incapable de créer une famille. Les Blancs aiment à nous donner ce nom et nous l'acceptons en riant, moi du moins, comme une preuve de leur suffisance. Ils se réservent le mot créole tout comme à des bœufs.
Extrait de Claire Solange, Âme africaine, de Suzanne Lacascade. Publié en 1924.
Vous qui venez de dénombrer en partie la descendance de mes grands-parents mulâtres, appréciez-vous l'ironie de... Alors, tu n'approuves pas l'antisémitisme ? Madame Paul interrompt comme elle peut une conversation qui lui semble risquée. Comment vous répondre ? Papa a traversé le monde combattant les préjugés. Et pourrais-je mépriser une autre race opprimée, moi qui suis nègre ? Oh, oh, oh ! Haletait Jeanne en crescendo. Pourquoi te dis-tu nègre ? Pourquoi ? Voyez mes cheveux crépus. Je ne saurais les lisser en cadenette contre mes joues, comme les Juifs d'Aden. Je ne pourrais les relever en chignon 1830. Mes cheveux de nègre, il faut les séparer en bandeaux, les tordre tant bien que mal sur la nuque. Coiffure qui exagère le prognatisme. Mesurez mon angle facial. Regardez-moi bien. Elle tend les bras. Nègre par la finesse des attaches, par les reins souples, les petits pieds sous la cambrure desquels peut passer sans les mouiller un filet d'eau. Pour renier l'origine africaine, il me faudrait vivre sous un voile, ne laissant passer ni mes yeux, ni mon nez. Allons, tante, un sourire. Acceptez telle qu'elle une femme de couleur qui donnera de la variété à la famille. Oh, laisse donc reposer tes instincts de lutte. En France, la question de la couleur compte si peu.
En quoi c'est un livre précurseur de la négritude créée par Aimé Césaire et Senghor ?
Revendiquer son africanité, ce qu'on pourrait appeler son afrodescendance, c'est pas un mot évidemment qu'elle emploie. Et se dire fier de ça, parler de ses ancêtres esclaves sur un mode qui est différent de celui de Césaire évidemment, mais les revendiquer. Alors là, moi pour le coup, dans ma famille, 60 ans après, ils n'étaient même pas capables de verbaliser qu'ils avaient des ancêtres esclaves. Donc pour moi, ça c'est vraiment une avant-première de la négritude. Et s'y ajoute quelque chose qui peut faire qu'elle est tout autant précurseur de la créolité et des travaux ultérieurs, c'est d'introduire du créole, pour la première fois, à mes yeux, dans un roman français, sans traduire, prendre le risque de ne pas être comprise, d'écrire les femmes antillaises dans leur beauté, dans leur toilette. La musique antillaise, elle a introduit des Bel Air à la fin de son livre. On sent quelqu'un qui veut aussi échanger, transmettre sur ce que c'est que les Antilles.
Marie Oiseau, levé chimie, Marie Oiseau,
levé chimie,
Marie Oiseau,
levé chimie,
Marie Oiseau,
levé chimie,
Marie Oiseau.
Est-ce que tu as le sentiment de poursuivre cette mission finalement parce que quand on t'écoute parler de Suzanne La Cascade, finalement, tu poursuis, tu transmets, toi aussi.
Il y a un moment où je me suis interrogée si ces héritages, ce livre, cette poupée, étaient un fardeau, ou bien c'est un cadeau. Et il y a un moment où j'ai décidé que ça allait être mon cadeau. Il y a une partie dont je me serais passée. Suzanne, c'est pas moi, mais c'est vrai que je m'identifie beaucoup. Donc j'ai beaucoup perdu de moi en m'identifiant à elle, je pense. Donc ça, c'était pas toujours une bonne chose.
Et comment ton héritage nourrit ton art ?
C'est le sujet de mon art. C'est-à-dire que le jour où je considérais que j'ai plus de choses à raconter là-dessus, je ne serais plus artiste. Et il se trouve que je vis à une époque où j'ai l'impression de me sentir un peu moins seule qu'il y a 20 ans sur cette question, et qui m'a semblé intéressant de raconter pas seulement l'histoire de mes ancêtres, ou bien quand je parle d'eux, c'est pour parler de notre histoire collective. Et ce sujet, je pense qu'il va pouvoir m'occuper encore très longtemps, parce que la question, elle est très loin d'être réglée.
Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir ? Est-ce que un nouveau souffle va arriver sur le Havre ? Donc toi, tu as tes visites guidées. Est-ce que tu entraînes d'autres à aller dans la même direction
oui,
que toi ?
Oui, je le suis de toute manière. Je suis optimiste de toute manière et je suis sage parce que je sais que ça se décrète pas de ne pas être raciste.
Anaïs Gernindos.
Ça se décrète pas de regarder
guide conférencière
son passé en face, qui qu'on soit, hein, en fait, hein, qu'on soit négrier ou qu'on soit fils ou fille ou descendant de bourreau, qui a envie de regarder quelque chose de moche? On a tous envie de se raconter une jolie histoire. C'est un choix de ma part que d'être allé regarder mon histoire en face. En partant de moi, je sais que ça ne va pas de soi de regarder sa vie, son passé, son histoire en face. Donc quand il s'agit d'une histoire aussi terrible, aussi tragique, comment on peut amener les gens à se questionner, si ce n'est en les invitant de manière, je ne sais pas comment dire, mais
voilà, en leur disant, écoutez, si vous voulez, je vous propose ça, venez et on va parler. Et ça fonctionne, mais ça prend du temps. Et je pense que c'est sur le long terme que ça s'inscrit. Parce que j'ai fait mon rapport d'activité. Je compte sur 3 ans le nombre de visites et le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Je suis à près de 4000 personnes. J'ai rencontré 3000 enfants. Mais je parle comme ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer des psychologues, des psychanalystes, des médecins psychiatres dans la profession que j'ai exercée. J'ai rencontré des gens que j'ai accompagnés, des gens qui allaient mal. Donc, forte de cette expérience-là, je sais qu'on ne force pas la psyché des gens. Je le sais. Je sais qu'il faut l'adhésion des personnes pour qu'elles puissent faire le chemin avec toi. Quitte à ce que ça prenne du temps, c'est pas grave. Le temps est notre allié. Et si effectivement on a une intention d'apaisement et non pas d'accusation, de revendication, je ne revendique rien. Je suis Anaïs Girnidos. Je sais qui je suis. Je porte en moi mon histoire. C'est tout. Je ne peux pas la refaire. La démarche, je l'ai faite pour moi-même pendant 20 ans sur un divan. Donc effectivement, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été en colère, déprimée de savoir que il y a des choses cachées qui vous font du mal à votre insu, parce que découvrir qu'on vous cache que vous n'êtes pas grec, que vous n'êtes pas espagnol, que vous n'êtes pas portugaise, que vous êtes un accident de l'histoire en fait. Vous êtes un accident de l'histoire. Girnidos, ça veut dire quoi? Girnidos, ça veut dire negridos. Girnidos, ça veut dire négresse. En espagnol.
Ah oui.
Negridos, comme ils disent dans les îles. Anagramme du mot nègre. Donc, l'officier des états civils qui est venu nommer mon... Oh, il devait être très fatigué, il en avait marre. Negrido. Voilà. Je suis negridos. Donc effectivement, mon négridos, j'ai retourné le sujet, j'en ai fait une flamme. Je suis au centre de la question, mon nom le dit. Donc je suis la flamme qui va éclairer les autres et j'essaie de le faire bien. Je le porte dans ma chair et je le porte dans mon nom, tu vois. Donc tu me posais la question de savoir comment je vivais ça, le fait d'être arrivé au Havre dans une ville. Je pense que... il y a des étoiles qui s'étaient alignées pour que moi, Anaïs Girnidos, je vienne faire ce travail dans cette ville où rien n'était dit. Et en découvrant leur histoire, j'ai découvert la mienne, en fait. Et je la transmets avec mes mots, en fait, avec mes mots à moi.
Arrête de faire mal, arrête de faire mal.
J'aime beaucoup la façon dont Anaïs parle de ça. Donc mon rapport à cette visite, il est beaucoup lié à Anaïs, parce que j'ai quand même beaucoup cherché, beaucoup lu. Donc au-delà des informations historiques dont je connais une partie, ce que j'aime, c'est cette façon d'en parler avec cette absolue sincérité. Je trouve extraordinaire ta capacité en permanence à parler de l'histoire, mais de l'implication de cette histoire dans la chair, dans le corps, dans la mémoire. Et tu le fais toujours avec une élégance. Moi qui me scotche, tu vois, tu es toujours là, tu vois, ancré, tu racontes. Chapeau bas, madame.
Merci, je suis évidemment très émue d'entendre ce que tu as à dire sur mon travail. Ce travail, je le fais avec beaucoup de sincérité, parce que je pense que je ne sais pas le faire autrement. Quand on parle du Havre, quand on parle du lien du Havre avec le commerce triangulaire, on parle du lien du Havre avec les gens. Et je fais partie de ces gens-là. Donc je ne peux pas me mettre à l'extérieur de l'histoire. Alors en effet, ça ne peut pas être une visite touristique, ça ne peut pas être une visite historique, c'est une visite qui est empreinte de ce que m'ont dit mes grands-mères, mes grands-pères, ce que j'ai... ce, en fait, ce qu'ils m'ont dit, non, ce qu'ils ne m'ont pas dit. parce qu'on ne parlait pas de ça, mais on ressent. Et quand j'ai commencé à faire ce travail de restitution, là, j'ai compris ce qu'il ne disait pas. Et à chaque fois, c'est... Je pense que c'est un hommage. On est obligé de dire... Il y a des gens... C'est Emmanuel, c'est Ariane, c'est Aurélie. On est obligé, nous, aujourd'hui, de faire le boulot de restitution et de réparation. C'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent parce que c'est fait. C'est moral, c'est viscéral, c'est humain, en fait. C'est humain. C'est... On peut pas faire croire aux gens qu'il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu des dégâts et on essaie de faire ce qu'on peut. Quand on se fait mal recevoir à la CAF, quand on se fait mal recevoir à la poste, parce que la dame de derrière son guichet, elle se la raconte, parce qu'elle est blanche. Mais si elle savait, si elle savait. Donc on ne peut pas lui faire la leçon. Parce que ce n'est pas ça. Je pense que... Il est important d'avoir fait le chemin soi-même pour pouvoir ensuite aborder cette question avec les gens et leur dire, vous savez, c'est pas qu'une question de faciès, hein, c'est une question, c'est une autre question. Est-ce que vous voulez prêter l'oreille? Allez, venez avec moi, on va parler et on va faire la promenade. Et les gens sont souvent, effectivement, très surpris. Très surpris. Je suis surprise de leur surprise, en fait, de leur étonnement, parce qu'en fait, on est tous pas dans le même bateau. C'est malvenu. Mais effectivement, quand je me suis retrouvée face à Ariane, où on était pris d'une émotion, et ça, on peut pas tricher. On a rien demandé, ni les uns ni les autres. On se retrouve embarqué là-dedans et on doit se débrouiller au mieux pour pouvoir apaiser cette mémoire, réparer cette histoire, tisser, en fait, retisser des liens humains, du. Voilà. Et on y arrive.
C'était Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui. Épisode 4, Le Havre, un futur à apaiser. Une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacuboviez. Avec Anaïs Gernidos, Ariane Chaplet, Éric Saunier et Emmanuel Gall. Merci à Emmanuel Rian, directrice des musées d'art et d'histoire du Havre, et Karine Camus, agent d'accueil et médiatrice. Archivina, Mylène Touchet. Lecture, Nicolas Berger, Nathalie Coily. À la technique, Julien Douminc, Benjamin Thuot, Delphine Baudet. Mixage, Pierre Henry. Chargé de programme, Anaï Morales et Marivonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Toute la série Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui est à réécouter en podcast sur le site de Radio France. Won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down.
can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. Sometimes I get this feeling makes me hesitate. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. You can't steal the things that God has given me. No more pain and no more shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't break me down.
I'm a little.